Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamo. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir pour nous de vous servir. Merci d'être branché sur la fréquence de la paix. Comment faire face à la crise humanitaire causée par l'éruption volcanique du Nyiragongo? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec plusieurs intervenants. Le premier, c'est Monsieur Marion Ngavo Kambale, président de la société civile de Goma. Marion Kambale, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations par rapport à la crise humanitaire causée par le volcan Nyiragongo. Appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Okapi Service. Willem Lungamba à la mise en onde, Tati Mapuku coordonne et réalise cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Encore une fois, ravi de vous retrouver dans Okapi Service aujourd'hui, fidèles auditeurs. Nous allons parler de la crise humanitaire causée par l'éruption du volcan Nyiragongo. Environ 400 000 personnes ont quitté la ville de Goma la semaine dernière après un ordre d'évacuation obligatoire et préventive des autorités provinciales. L'évacuation surprise s'est faite dans le plus grand désordre, sans aucune assistance. Les habitants se sont dirigés vers certains vers la localité d'Isake, Masisi, Kibumba, d'autres ont traversé le lac pour se retrouver à Bukavu, certains se retrouvent dans les villes rwandaises. Cet exode soudain a causé une véritable crise humanitaire. Les déplacés sont à la recherche des logements, ils ont besoin d'eau, de nourriture et autres. Alors que faire pour apporter une réponse urgente à cette crise humanitaire? Comment organiser un élan de solidarité au niveau national? C'est vrai qu'il y a déjà des initiatives à gauche, à droite, mais comment arriver à conjuguer ensemble les efforts pour bien coordonner cet élan de solidarité? Eh bien, c'est de cela que nous allons parler au cours de cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Vous voulez intervenir, vous avez des témoignages, vous avez des questions et préoccupations. Le standard est déjà ouvert, composez les 081 890 63 94. Et merci également à tous les internautes qui ont déjà réagi sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Nous allons démarrer cette émission avec Marion Ngavo Kambale, président de la société civile de Goma. Monsieur Marion, bonjour. Marion Kambale, bonjour.
Oui, bonjour.
Bien, vous êtes sur place à Goma. Alors dites-nous comment se présente la situation aujourd'hui.
Goma se réveille dans un climat un peu de calme. Dans la ville, on ne trouve pas beaucoup de gens circuler, à part le quartier nord, donc Majengo, Bouéné, Virunga, là où il y a ce mouvement-là et cette idée là de partage d'aide. Mais il faut dire que depuis deux jours, il y a des mouvements de départ et des mouvements de retour. Le mouvement de retour, il y a des gens qui viennent de Gisenyi pour rejoindre Goma. Il y a les gens qui viennent de Sake pour rejoindre Goma. Il y a aussi quelques personnes qui reviennent de Kiwanja et de Kibumba pour rejoindre Goma. Et c'est là pour cause, parce que là où ils sont partis, il n'y a pas une préparation des sites d'accueil. Et ça pose beaucoup de problèmes de logement, de l'eau, de nourriture, et même de la sécurité. Ce retour aussi justifié par le tremblement de terre qui ne se fait plus entendre. Comme ces trois jours, il n'y a plus assez de tremblements de terre. Donc les gens pensent qu'il faut revenir à Goma. Il y a aussi des départs. Les départs, c'est de Goma vers Bukavu. Il y a encore des mouvements à travers la voie fluviale, mais aussi à travers la voie routière passant par Sake et Minova. Il y a aussi des départs encore de Goma vers Rutshuru pour aller dans le Grand Nord à Butembo. Et ça, ça suffit par une désinformation. Et donc, il n'y a pas de grandes précisions qui sont données par l'OVD et par l'autorité pour dire oui ou non, il n'y a plus la menace. Et donc, les gens ont peur et se disent, vaut mieux, n'est-ce pas, s'écarter un peu.
Mais ça, c'est Marion, il y a eu des rumeurs dans les réseaux sociaux selon lesquelles Nyamulagira aussi entré en éruption. Je crois que c'est ça qui a causé un peu de panique aussi.
Ce qui inquiète en fait la population, on a parlé de l'éruption par Nyamulagira, l'éruption par Murara, le ministre de l'Information nationale l'a aussi dit, après il a retiré, et donc c'est ce qui cause encore un peu de psychose dans les chefs des gens, c'est pourquoi. Et d'autres couches quittent pour dire qu'ils attendent la pure précision dans l'avenir pour dire est-ce qu'il y a encore menace de la lave, est-ce qu'il y a encore menace de gaz méthane à Goma. Tandis qu'une autre couche de population qui n'a pas quitté Goma s'est dit liée à leur activité. Comme vous le savez, il y a plus beaucoup de journaliers qui sont dans des grandes villes au lieu d'aller mourir dans les camps de localisation qui n'ont pas de conditions d'accueil, ils jugent bon de rester dans Goma et de ne partir que là où que lorsqu'ils verront encore les laves ou la coulée des laves sur la ville de Goma.
Bien.
Aujourd'hui, on peut trouver une assistance qui est déjà un peu donnée. Nous avons l'assistance du gouvernement dans Sake et dans Nyiragongo. Il y a les personnes de bonne volonté, certainement aussi quelques politiciens en guise de positionnement qui donnent aussi certaines aides en vivre et non vivre dans le quartier victime. Il y a les ONG qui font déjà le ciblage des victimes. Là aussi, c'est un problème parce que il y a déjà une certaine irrégularité remarquée dans le ciblage et l'identification des victimes, nous disent les populations. OCHA vient d'octroyer 1,2 million de dollars pour essayer d'appuyer et d'aider les populations victimes, mais ça doit se passer par les ciblages avec des ONG qui vont éligibles au fonds humanitaire qui vont se positionner là-dessus. Il y a aussi cette solidarité spontanée que d'ailleurs nous saluons en passant des populations de Goma ou d'ailleurs envers les populations victimes qui aident et à travers la nourriture, l'eau, etc. Et même dans l'accueil des personnes dans leur ménage. Et
donc, Marion, ça. Marion, comment est-ce que ces aides vont venir, d'autant plus que l'aéroport de Goma est fermé jusqu'à nouvel ordre?
Ça, c'est une grande question, parce que, comme vous avez entendu aussi, le président a dit qu'il avait des difficultés d'atterrir pour arriver à Goma. Mais nous pensons que, comme il n'y a plus de couler de lave, comme l'aéroport n'a pas été touché, je pense qu'un couloir humanitaire aérien peut être fait pendant un temps en vue d'acheminer les aides. Et donc nous pensons que là n'est pas un problème. Le problème, c'est de savoir quel type d'avion peut atterrir, parce qu'on n'a pas encore maîtrisé, pour que, n'est-ce pas, cette aide puisse arriver. Nous voulions aussi terminer ici en disant la route Goma-Kiwanja, Lubero, ça, elle a été ouverte. Ça a été un look de soulagement pour les populations qui voulaient partir et revenir, mais également pour les ravitaillements en denrées alimentaires. En fait, la province du Nord Kivu, la partie nord, alimente la ville de Goma, alimente la ville de Bukavu en denrées alimentaires. Et on avait déjà flambé des coûts sur le marché et la rareté des aliments. Et donc, la réouverture de cette route, c'est vraiment une idée salvatrice. Aujourd'hui, dans la ville de Goma, certaines boutiques, certaines alimentations commencent à rouvrir. Les taximens motards, comme vous le savez, commencent à travailler. Malheureusement, certaines banques n'ouvrent pas. Et ça, c'est une difficulté. Il y a aussi une difficulté de personnes et d'échangeurs qui refusent la monnaie dollar. Il y a seulement des petites fissures ou sur lesquelles il y a des petits cachets ou des écrits. Et ça, ça plonge encore la population dans une crise. Comme vous le savez, le taux de dollar était à 2000. Aujourd'hui, il est autour de 1600 et 1800 dans la ville de Goma, à ça qu'il a tenu déjà autour de 1400 $. Ce qui fait un problème pour cette population qui a été brusquée de se déplacer, pour cette population qui est au chômage et ne se débrouille que journalièrement. Et donc, voici un peu ça, la situation actuelle et humanitaire dans la ville de Goma et dans les quartiers sinistrés.
Bien, on va accueillir le professeur Dadi Saleh, expert en développement. Il est avec nous ici au studio. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous convier à suivre un reportage de notre confrère Emmanuel Elameji de Bukavu, et où il nous signale que la ville de Bukavu accueille plus de 10 000 déplacés de Goma depuis la semaine dernière. Parmi ces personnes, environ 300 déplacés sont installés dans les sites aménagés par le gouvernement provincial pour la circonstance. D'autres sont dans des familles d'accueil. D'autres encore ont rejoint leurs membres des familles respectives. Alors, quelle est la situation humanitaire de ces déplacés de Goma arrivés à Bukavu? Réponse dans ce reportage d'Emmanuel Elameji.
Plusieurs personnes en provenance de Goma arrivent toujours à Bukavu avec les membres des familles, dont parmi eux des enfants, les femmes enceintes ainsi que les personnes de troisième âge, même les malades. Une personne arrive par le port lacustre et d'autres encore par la route RN2. Certains ont vite rejoint leurs membres de famille respectives vivant à Bukavu. D'autres trouvent difficilement les logements dans les hôtels et autres lieux d'hébergement, mais d'autres encore ne savent pas où trouver le logis.
Je vais me mettre à l'abri sur les événements qui s'est passé à Goma. Je me suis sentie ne pouvant plus résister parce qu'il y avait trop de tremblements de terre et tout. Le temps que la situation se stabilise à Goma. Je fais ça avec tous les autres membres de la famille.
Le gouvernement provincial du Sud Kivu s'est mobilisé pour accueillir et orienter les déplacés dans les sites aménagés pour la circonstance. Un geste de solidarité qui va droit au cœur de certains déplacés bénéficiaires de ces actes de générosité. À ce jour, le site aménagé en Dendere, dans la commune du Banda, Bukavu, compte au moins 300 déplacés jusque dimanche 30 mai 2021.
Vraiment, nous remercions grandement les gouvernements provinciaux d'ici du Kivu parce qu'ils se sont organisés pour nous accueillir. Nous avons manqué des familles d'accueil, mais le gouvernement provincial s'est promené pour que nous soyons bien accueillis au site du Kivu.
Le gouverneur de province a effectué une visite de réconfort dans ces sites de Ndendere le week-end dernier. La question en rapport avec leur prise en charge a été évoquée par le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kasi.
Oui, nous avons pris les dispositions nécessaires pour accueillir nos frères et sœurs de la province du Nord Kivu, donc de la ville de Goma en particulier. Pour l'instant, on ne va pas se plaindre en termes de moyens, puisque nous n'avons pas encore un afflux de frères et sœurs dans cet endroit que nous avons disposé. Nous allons nous organiser pour avoir aussi un site viable qui remplit les conditions minimum, donc tout ce qui est comme dortoir, à manger, cuisine, et surtout l'eau. Il n'y a aucun site d'hébergement qui peut remplacer les conditions d'origine. Voilà.
Ce même dimanche 30 mai, d'autres déplacés continuent à rejoindre ces sites. Cette maman s'est dit heureuse des conditions trouvées sur place.
Mais natoka Goma baba tulikimbia moto ya volcan.
Tulifika hapo siku gani?
Tulifika leo asubuhi kutoka kunani kubato. Nikaona watu wanakuya, juu niko na problemu ya macho, niko mgonjwa. Nikaona watu wanakuya, kumbe ilikuwa watu ya Croix Rouge. Baka tupokea très bien, baka tutia mumagari. Bana tufikisha paka hapa. Na sai niko nakula, antuka Mungu ababariki sana. Viko bien organize.
Okay.
Ndiyo.
Unakuya na batoto?
Ndiyo, mina kia na bajuku yangu mbili. bote biko bien na mie niko hypertendu tena diabetique, balisha nipatia dawa za kwanza bila jamaa bila ndugu, lakini Croix Rouge ni ndugu mkubwa vraiment.
Okay.
Na baba Tshisekedi Chilombo, Mungu ambariki. Tena niko na souvenir yake nitaki ya vegle, niko souvenir yake ya mzuri badi furahi na kwa ya mingi, niko na muti yake kan blanche yake nyali tutumiaka hanijue, lakini anapenda na mimi nikuwe mzee sawa wale wazee anaonaka bulaye. Ndio antuka merci sana, Mungu ambariki. Na nguo niko nayo. Tena na chakula niko na kula. Toute la communauté vous remercie.
De l'autre côté sur le même site, le comité provisoire des déplacés procède à la distribution des vivres et non-vivres.
Bonjour, je m'appelle Gad.
Tu as quel âge?
6 ans.
Maintenant tu es arrivé ici comment?
Avec les bateaux. On est venu ici parce qu'il y avait les tremblements chez nous. Alors on nous a dit de venir à Bukavu.
Oui.
Vous dormez bien?
Oui.
Vous mangez bien?
Oui.
Très
et
bien.
Et moi aussi.
Toi qui?
Gaël. Hein? Complexe scolaire maman pour la guérasse de Goma.
Et la paille, elle est tremblement.
Jambo maman.
Jambo sana. Mimi natoka Goma. Jua matatizo yenye inatupata. Mimi niko deja na 2 jours leo hapa. Tukaona bakaka mwivi wanakia tukamata. Mwenye alikuwa na jifra katuzia andazi. Mimi bakatuambia tuikuwe poze. Mimi nashukuru Mungu malgré le même jour atukupata chakula. Tunaona ba bateuliwa ya Mungu wanaanza tuletea chakula. Tulifika tukafikiria kumaji ya kukoga na kukunywa, tukavumilia sababu hali iko mubaya. Njoo tuko tu hapa. Tungeomba vraiment gouvernement tusaidie, gouverneur pardon. Tunakulilesa vile batoto yako. Banganga biko me dawa njoo hakuna.
C'est une organisation internationale, Asili, qui accompagne la Croix-Rouge pour le ravitaillement en eau potable. Le conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu est très mobilisé pour accueillir les déplacés depuis leur arrivée jusque sur les sites. Joël Sambo, présidente.
On a déployé des volontaires sur tout le port pour essayer de recueillir les déplacés, de les orienter vers le site. Et ici au camp, on est en train d'apporter notre contribution sur tout le plan. Et il y a beaucoup de gens, il y a un afflux de gens qui viennent de Goma. Souvent, on a un groupe de gens qu'on veut maintenant amener au site. Mais on n'a pas le moyen de transporter, on est obligé de se cotiser pour qu'on puisse transporter le déplacé de port jusqu'ici. Ici, sur le site, j'encourage quand même le gouvernement qui a essayé de mettre ses services ici pour accueillir le déplacé. Mais il y a aussi les femmes enceintes, il y a les enfants qui doivent être encadrés avec des petits jets, il y a la pipe psychologique qu'on doit apporter. C'est quand on reçoit à peu près 300 personnes, on peut aller jusqu'à 400 à 500 personnes, mais déjà avec l'afflux de la population ici, je pense d'ici si 2-3 jours, les camps sera plein. Aussi, il y a des déplacés qui sont partis dans des familles d'accueil. Et vous allez voir qu'il y a des familles qui reçoivent plus de 4 ménages dans leur famille. De façon que ces familles ne parviennent pas à venir en aide à ces personnes-là. Et certains commencent déjà à se diriger vers le site. Donc, tous les appuis sont nécessaires pour apporter à toutes ces familles-là afin qu'ils puissent être réintégrés dans leur famille.
Emmanuel Elamejou Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Okapi Service. À Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service.
Merci Emmanuel Elamejou de Bukavu pour ce reportage sur la situation humanitaire au niveau du site des déplacés de Ndendere à Bukavu. Alors, avant de donner la parole au professeur Dadi Salé, nous avons deux auditeurs en ligne, ingénieur Pierre Moussafiri de Goma et Jean-Paul Moulangou depuis Louputa. Ingénieur Pierre Moussafiri, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi, bonjour à l'invité.
Bienvenue dans cette émission, quelle est votre question?
Merci beaucoup. Moi, je dirais que c'est à cette période que vous pouvez remarquer l'importance d'une vraie organisation des services de catastrophes naturelles et autres urgences dans le pays, car à travers les gouvernements qui se disent être responsables et qui se soucient de sa population, étant qu'un gouvernement responsable. Car si on avait suivi l'assistance à se déplacer des 10 quartiers de la ville de Goma et cela de plusieurs territoires de Nyiragongo qui à leur tour n'ont pas même d'habitation, même si on ne peut pas observer à une deuxième élection à ce jour. Mais vu que dans notre pays, nous avons des structures créées, mais mal gérées et aussi les détournements qui se voient dans ces dernières, voilà les conséquences que subissent les sinistrés de l'éruption du volcan du mont Nyiragongo, qui ont respecté les mots d'ordre leur donnés par le lieutenant général Constant Dimada, la prophète du Nord, qui vaut comme gouverneur.
Pierre Moussafir, pourquoi vous êtes resté à Goma? Vous n'êtes pas déplacé?
Je ne suis pas concerné par le bicartier cité en premier.
Ah, d'accord.
Oui, oui. Et voilà les conséquences maintenant que ce sinistré qui se sont déplacés vers Sake, Rwanda, Rutshuru et Bukavu traversent. Ils n'ont pas d'assistance de la part du gouvernement à part celle qui est arrivée les samedis passés à Sake, par exemple. Une chose grave, nous venons d'enregistrer hier, c'était un cas de choléra qui a été enregistré à Sake. Aujourd'hui, nous sommes à 13. Chose qui risque d'empirer la situation. Pour moi, je dirais que le gouvernement doit prendre en charge ces sinistrés et les assister le plus tôt possible.
D'accord.
Avec le partenaire ainsi que les ONG internationaux, je prends le camp de l'EMSF qui a dû prendre en charge les sinistrés en assistance médicale de Rutshuru, ainsi que la CICR qui ne cesse, la Croix-Rouge RDC qui ne cesse de veiller à ces sinistrés de Goma.
Merci. C'est Pierre. Merci Pierre Moussafiri. On va donner la parole à Jean-Paul depuis Luputa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Ngachama, et bonjour à tous les amis auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Jean-Paul.
Voilà, merci beaucoup. C'est comme je l'ai dit, je fais mon commentaire là. Tout ce que nous devons observer doit être bien structuré. Donc, l'organe habilité à faire l'état des lieux sur les deux volcans qui ne cessent de s'érupter, ayant déjà fait son état des lieux, sachant la période pendant laquelle cette éruption s'est faite. Donc, tout ce qu'on a, c'est une bonne organisation. Et l'organisation là doit passer comment? Donc, on a d'abord évalué les conséquences, je peux dire quoi? On a déjà évalué les effets de cette éruption sur la population. On se rend compte que la population, pendant cette période, a besoin de ça. Ça, surtout les besoins primaires, surtout, c'est ce qui pose problème ici au Congo. Et on peut maintenant s'organiser au niveau du gouvernement pour appuyer les organisations en charge les organisations qui prennent en charge la population de ce côté-là. Donc c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que pendant cette période, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça, donc pour prendre cette population en charge. Sinon, nous aurons toujours à recourir à ces genres d'histoires qui vont encore plus pénaliser la population qui a déjà peiné, ça fait longtemps.
D'accord, merci. Merci Jean-Paul Moulangou depuis Luputa. Professeur Dadis Ali, est-ce qu'on peut confirmer aujourd'hui qu'il y a crise humanitaire au Nord Kivu aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Il y a crise humanitaire due effectivement à l'éruption volcanique. Mais il faut noter qu'il y avait déjà d'autres points qui peuvent confirmer cette crise humanitaire. C'est que nous sommes en état de siège, n'est-ce pas? Et avant l'état de siège, au niveau des Nyiragongo, il y avait déjà à Bouéné des conflits ethnico-tribales, ou bien, quelle que soit la forme, ou bien des rebelles qui avaient attaqué. Donc, au fond, toutes les mauvaises conditions étaient déjà réunies et le volcan n'a fait qu'empirer cette crise humanitaire. Je pense brièvement, c'est ce qu'on peut déjà noter.
Alors aujourd'hui, ces populations qui sont déplacées vers Sake, vers Rutshuru, Bukavu, d'autres se retrouvent au Rwanda. Quels sont leurs besoins aujourd'hui?
Oh, les besoins sont énormes. Je pense que tout le monde est en train de les citer. Commençant par le besoin le plus simple, l'eau. Passant par l'autre besoin qui est juste des installations sanitaires, juste des latrines qui manquent énormément, et allant par le peu de choses à manger, le minimum, des biscuits. Vous savez que quand on se déplace, on est souvent déshydraté et on a besoin d'énergie. Donc la plupart des fois, c'est peut-être pas le foufou qui risquerait de manquer, même si ça manque, mais c'est surtout des éléments énergisants.
Il semble qu'il y a des gens qui ont fait le pied de Goma jusque vers Sake là.
Beaucoup de gens. Je pense que c'est la grande partie effectivement de la population qui s'est déplacée, surtout vers Sake.
C'est combien de
kilomètres? C'est 27 kilomètres jusqu'à Sake. Alors il faut s'imaginer des enfants,
avec les enfants,
surtout,
tout ça, femmes enceintes.
Des femmes enceintes, faire 27 kilomètres, c'est pas mince à faire, surtout la nuit. Il faut bien comprendre que l'évacuation a commencé la nuit. 1h, 2h, 3h, 4h du matin, avec l'intempérie et tout le reste. Donc au fond, il est sûr, clair, noir sur blanc, que beaucoup de gens sont dans un état de précarité avancée. Et c'est vrai que les spécialistes ont démontré que le cas de choléra existait avant, ça va, l'arrivée des déplacés. Mais malheureusement, nous nous attendons à une accentuation de ces cas-là.
D'abord, comment, pourquoi demander aux gens d'aller vers Sake alors qu'on n'a rien préparé comme structure d'accueil?
Là, je rentre à l'essentiel de la question humanitaire. Normalement, même dans la confirmation de notre thème d'aujourd'hui, vous avez bien écrit que tout le monde a été pris au dépourvu. Et j'ai ri. J'ai ri en lisant cela. Tout le monde ne peut pas être pris au dépourvu. Ce n'est pas possible, parce que gouverner, c'est se prévoir. Tout le monde, on enseigne ça à longueur de journée à tout le monde. Mais maintenant, on se pose des questions. Mais est-ce que les gens assimilent le peu de matière? Si gouverner se prévoit et que le développement durable prévoit assez qu'il y ait des éléments qui soient remplis, les catastrophes existent et sont prévisibles dans le budget. Ça, je vais le dire, parce que apparemment tout le monde se cache derrière la non-prévision, ça nous a pris au dépourvu. Non.
Ça doit être budgétisé.
Ça doit être budgétisé. Et surtout, une catastrophe aussi prévisible que le volcan. Vous avez eu à l'UPEN et à certaines universités, même des thèses qui parlent des 10, 15, 20 ans où il y a éruption. Ça va à une grande éruption. C'est cyclique. Oui. C'est vrai qu'on a de petites éruptions régulièrement, même après 3, 4, 5 jours, 10 jours, les gens n'en parlent pas. Mais au moins des grandes éruptions, c'est cyclique. C'est-à-dire que c'est prévisible, s'il vous plaît. Mais la question, qu'en est-il maintenant de la gestion? Ben oui. Et là, nous parlons du plan de contingence.
J'ai même appris que les gens qui étaient partis à Sake, certains retournent. Monsieur Nga, vous nous a dit, parce qu'arriver à Sake, il n'y a rien.
Tout à fait.
Alors on préfère retourner chez soi à la maison.
Tout à fait, mais ne mettons pas cela sur la tête seulement de « il n'y a rien ». Non, il y a deux aspects, même ceux qui sont allés au Rwanda, là où ils ont été apparemment un peu mieux accueillis, beaucoup d'entre eux sont en train de retourner. Donc il y a deux grands aspects. C'est vrai que on ne peut pas donner un ordre, n'est-ce pas? Un ordre obligatoire d'évacuer qui n'a pas été malheureusement assez suivi. Vous avez bien remarqué, la population de Gomé a plus de 1 500 000 et la zone demandée rengorge la grande partie. Ça va. Donc on suppose que l'ordre n'a pas été peut-être, j'ai pas des statistiques, exécuté ou bien respecté à peut-être 50%. Mais cela étant, ça a été respecté. Les gens ont évacué, c'est-à-dire gouverner, c'est prévoir. On devait avoir des sites à Sake, on devait avoir des sites peut-être à Rutshuru, un peu aussi vers Bukavu, même si on en a eu un peu après, mais plus vers Sake et vers la route vers Rutshuru. Donc on devait avoir des sites. Et c'était prévu, je précise, c'était prévu dans le plan de contingence, déjà. Donc, nous avons des plans, nous avons la constitution, mais c'est encore une fois le respect de nos textes et le respect de ce qui doit se passer. C'est une preuve encore suffisante.
Donc le minimum dont les gens ont besoin, c'est l'eau, les sanitaires, la nourriture.
Le minimum, je vous donne un cas. Arriver à Sake, un pain ou bien un plat qui pouvait coûter 1500 francs congolais a été doublé, triplé. Des logements qui, parce que les gens devaient se débrouiller avec le peu, des logements qui pouvaient coûter $50, ça va, ont été mis peut-être à $150. Je vous précise que même le prix du bateau, à un certain moment, a augmenté. Donc, comment est-ce que les gens qui devaient être protégés, n'est-ce pas, les gens qui devaient être protégés ont été plutôt muselés. Je parle de museler parce que il faut bien comprendre, quelqu'un en a parlé dans les reportages, le taux du dollar au fond, c'était de l'anarchie au fond. Chacun s'est comporté comme il voulait, alors on pouvait bien se poser des questions. Ok, qui gouvernait? Parce que comme on dit, gouverner c'est prévoir et qu'il faut le bien des déplacés, le bien de la population, mais ces 5, 7, 8 jours ont été un vrai cauchemar et chemin des combattants pour la population pour qui s'est déplacée.
Beaucoup de familles. On va accueillir Shadrack de Mbujimayi et Platini de Mbandaka. Shadrack, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody Daniel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Shadrack.
Oui, j'ai une proposition, ma proposition est la suivante. Pour faire face à cette crise humanitaire causée par l'éruption volcanique, Je pense que le gouvernant et les gouvernés doivent s'approprier de cette question. De quelle manière? Concernant le gouvernant, parce que c'est à eux cette responsabilité, ils n'ont pas pu, ils n'étaient pas à la hauteur de cette tâche-là. Je pense que comme il y a eu d'initiative par certains élus pour soutenir l'état de siège, je crois qu'ils peuvent le faire tout de même. C'est cotiser, voir un peu donner tout un quota, pourvu qu'on puisse un peu aider nos frères à nos élus, en commençant par voir même la présidence, ainsi de suite, même jusqu'à la mairie, au secteur, ainsi de suite, le gouvernement doit se cotiser, défalquer un petit rien dans leur émonument, ainsi de suite, afin qu'on puisse aider. Maintenant, concernant nous, le gouvernement, parce que nous compatissons, bien que nous sommes éparpillés sur l'étendue du territoire national, moi je propose s'il y a un numéro M-Pesa ou Orange Money ou Airtel Money ou de Congolais, parce que il y a assez de bonnes fans à manque pas, nous faisons partie, ils peuvent nous donner ces numéros-là en bougie. On peut aussi contribuer tant soit peu à la souffrance avec nos frères qui sont là à Goma. Maintenant, pour terminer, Monsieur Jody, moi je pense, oui, l'éruption volcanique, ce sont des faits bien entendu imprévisibles, mais néanmoins on peut toutefois alerter. Moi je pense, pour que ceci ne puisse pas revenir, il faut sanctionner l'organe, l'observatoire volcanologique de Goma. Je crois que le responsable doit bon, répondre de leurs actes.
Chadrak, aujourd'hui on ne parle pas des sanctions, on parle pas sanctions, on parle de la crise humanitaire et comment la gérer rapidement. Merci d'avoir appelé. On va donner la parole à Platini Mbombo de Mbandaka. Bonjour.
Merci.
Bonjour Platini. Platini Mbombo, bonjour.
Bonjour Jody.
On vous écoute.
Bonjour Jody. Oui, merci. Merci d'abord de m'avoir accordé un peu la parole. Je pense que j'ai bien suivi l'invité qui est au studio avec vous. Et aussi, aujourd'hui, la thématique du jour est louable, parce que le sinistre, comme je peux le dire, et la crise alimentaire, ça pose vraiment sérieux problème de cette partie-là. Et ce que moi, je peux proposer dans la thématique d'aujourd'hui, je pense qu'au niveau là où il y a cette crise-là, au niveau de cette province-là, il y a tout un gouvernement qui est mis en place au niveau de cette partie-là. Et je pense que dans ce gouvernement, il y a un gouvernement qui est mis en place et aussi tout un ministère qui est le ministère des Affaires sociales. Et aujourd'hui, si on parle de la crise alimentaire, cette partie-là, je ne sais pas si réellement que dans cette partie-là, il y a un ministère qui existe, le ministère provincial des actions humanitaires. Alors je ne sais pas, parce que j'avais suivi il y a au moins une semaine l'émission qu'on a fait avec vous. Je suis invité comme le professeur Théophile Mumba. C'est celui qui avait beaucoup parlé, surtout sur le plan des alimentaires, hein, sur le plan alimentaire, des lots, etc., tout ça. Et aujourd'hui, est-ce que moi je peux avoir le questionnement, je crois que l'invité qui est mieux passé ensemble avec vous, il peut nous donner un peu le détail, parce que la fois passée, on ne croyait que ces gens-là peuvent quitter ce territoire pour aller installer d'autre part. Alors je ne sais pas si aujourd'hui ce territoire est déjà désinfecté ou comment. Et sur le plan de l'alimentation, je pense que dans cette partie-là, il y a tout un ministère qui s'occupe au niveau de action humanitaire, qui peut aussi s'occuper à ça. Et au niveau central, il y a aussi un ministère qui est censé à soutenir des telles choses comme ça. Et dans ce cas-là, pour bon, nos organisations comme internationales, tout comme locales, tout ça, et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut maintenant pour essayer de mettre en place, surtout sur le plan alimentaire. Je pense que c'est comme panne, par là, tout ce qui donne un peu à l'alimentation au niveau de ces gens-là.
D'accord.
Alors, ce que je veux ajouter, et aussi proposer au niveau du gouvernement, là, je crois que là-bas c'est l'état des chiens, bien sûr, mais au niveau du gouvernement, d'essayer un peu, parce que ces gens-là, il y a aussi des connaissances par-ci par-là, même si en Mandaka, il y a aussi des gens qui ont aussi des familles là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, là-bas, dans ce territoire-là, ou dans cette province, de faire un peu d'organiser eux-mêmes, d'envoyer sorte de numéro à MPSA, le gens qui peuvent avoir de la bonne volonté, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas envoyer quelque chose? On peut envoyer un peu comme on appelle le budget unique.
Bien. Merci. Merci Platini. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Marion Gaveau, vous êtes toujours en ligne?
Oui, jeudi, je suis en ligne.
Voilà, on voit déjà à travers le pays, il y a un élan de solidarité par rapport aux sinistrés de Goma. On a appris par exemple que l'ensemble de Moïse Katumbi a déjà mobilisé 86 000 $. Vodacom a mis en place un numéro M-Pesa, assistance aux sinistrés de Goma. Il y a des parts et d'autres des quelques élans de solidarité. Bien qu'il faut tout canaliser, il faut bien coordonner tout cela. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout cet élan de solidarité à travers le pays?
Moi, je pense que c'est une grande caractéristique du Congolais, que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et c'est vraiment salutaire. Néanmoins, cette aide-là doit être coordonnée. Et comme vous le savez, si on fait l'aide en ordre dispersé, il peut y avoir des duplications où on peut tomber dans les mauvaises mains ou auprès des victimes qui ne doivent pas en avoir. C'est pourquoi ici, le souhait de la société civile pour cette crise à la date d'aujourd'hui, c'est d'abord d'actualiser et d'adapter le plan de convergence parce que ça a été une surprise. En deuxième position, nous voulions que, vu cette crise qui semble être aussi actuellement presque monétaire ou financière pour la population, que le gouvernement procède à la réouverture de toutes les banques et faciliter les transactions. Et de régler la question du taux de dollars sur le marché et le refus des billets de dollars avec petit écrit ou caché, ça plonge la population dans la pauvreté. Il faut régler ces questions-là. Il faut aménager et appuyer les sites de délocalisation. Beaucoup de gens ne vont pas rentrer à Goma aujourd'hui. Donc il est encore grand temps que le gouvernement et que cette aide-là soit aussi affectée dans l'aménagement et l'appui des sites de délocalisation. Comme je disais, l'aide doit être coordonnée. Certes, la partie non gouvernementale peut se coordonner en collaboration avec la partie gouvernementale, mais qui doivent recevoir les aides de part et d'autre et savoir pour quels besoins urgents et prioritaires on peut le faire. Nous pensons également que pour bien gérer cette crise, il faut donner l'information à temps et avec précision à la population. Nous avons assisté à une cacophonie dans la communication qui a plongé encore la population dans la psychose. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, je parle d'un restaurant, une boule ou un foufou qui coûtait 1000 francs est passé directement il y a 3 jours à 4 000 francs. Le transport Goma-Kiwanza qui était de 10 000 francs ou 12 000 francs est passé à 20 et à 25 000 francs. À Minova, par exemple, un régime de bananes qui était à 3 500 francs est passé directement à 6 000, voire 8 000 francs congolais. Voilà les grands défis qu'a la population et je pense que pour bien gérer ça, il faut aussi un moment de la sécurité et la réhabilitation dans ces routes-là. Parce que si ces routes entre Goma, Kiwanja, Butembo, entre Goma, Sake et Weremana pour aller à Bukavu, ne sont pas réhabilités, ne sont pas sécurisés, l'aide là aura des difficultés à atteindre, n'est-ce pas, les réfugiés. Nous pensons qu'il faut protéger les personnes et leurs biens des déplacés, mais nous pensons aussi actuellement que nous avons remarqué la police de circulation routière, les services de sécurité et de l'armée ne facilitent pas le mouvement des populations. C'est pourquoi ici, nous, comme société civile, nous demandons qu'en cette période, que cette tracasserie cesse. On peut bien contrôler si les gens n'ont pas d'armes, n'ont pas la tracasserie, qui vont passer la porte. Mais ce n'est pas le temps aujourd'hui de tracasser les chauffeurs, les voyageurs, dans les villes comme dans les territoires, qui souffrent de ces mouvements de population.
Bien, merci Marion Gavo Kambale, président de la société civile de Goma. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, jeudi.
Bien, on va accueillir Abindou depuis Masisi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui sont branchés à pareil moment.
Quelle est votre question, Bindou Maombi?
Par rapport à la thématique du jour, quand même nous sommes dans la province concernée, même si que nous soyons dans le territoire de Masisi, précisément Masisi Centre. Nous avions vu des familles, des enfants, des vieux qui sont venus se réfugier sur place ici à Masisi Centre. Vraiment, la situation est tellement pire. J'ai saisi de cette opportunité pour tout d'abord remercier tous ceux qui ont contribué pour assister à ces sinistrés. De ce qui est là, je vais proposer des petites préoccupations de ce qui concerne l'assistance humanitaire. Et la préoccupation est la suivante.
Oui, rapidement. Bindou, allez-y rapidement. Désolé, il n'est plus là. On va donner la parole à Emina Mwanda de Bukavu. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la Radio Capi. Bonjour à toute l'équipe de...
Emina Mwanda, vous avez certainement vu les sinistrés de Goma, les déplacés arrivés à Bukavu. Dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui?
Vraiment, monsieur... monsieur le journaliste, je peux dire que ici à Bukavu, nous sommes en train d'assister à une forte démographie. Parce que vous savez que d'abord, premièrement, avant que la situation vraiment s'observe au nord Kivu plutôt à Goma, la situation de la condition de vie était déjà précaire. Vous savez ce que la RDC avait déjà connu. Il y a certains travailleurs qui n'avaient pas de quoi là, qui n'étaient pas encore payés, il y a le chômage, ainsi de suite. Et maintenant, si vous accueillez, vous étiez une famille, et il y a aussi deuxième ou troisième famille qui viennent s'ajouter là. Et vous traversez la vie un peu difficile, vous vivez en dessous de la moyenne, et tout ça, la présence des autres là, bon, dans deux ou trois jours, ça peut passer. Mais, après un certain temps, ça va toujours bâcler. Parce que nous savons que nous devons partager, nous devons compatir ensemble avec nos compatriotes, nos confrères de Goma, ou soit nos confrères de Goma. Mais la situation actuelle, l'économie, le social est en berne. Et nous appelons d'abord à toute personne. Nous savons que la RDC a des moyens. Mais pour de cas pareils, il faut qu'il y ait des aides urgentes, il faut que toute personne de bonne volonté, chacun à son niveau, puisse amener quelque chose pour d'abord assister ça. Parce qu'on ne peut pas fêter quand ça brise, c'est les voisins.
Oui, merci. Merci, Amina, professeur Dadi Salé.
Oui, je pense que vous suivez tout le monde. Je vais éviter de répéter la situation sur terrain parce qu'elle est effectivement catastrophique.
Elle est catastrophique. Mais il y a des élans de solidarité à gauche, à droite. Comment arriver à tout coordonner pour éviter d'être dispersé, quoi?
J'apprécie ces élans et je pense que ça caractérise le Congolais. Nous avons des cœurs formidables, etc. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse à court, moyen et long terme. Donc, à court terme, immédiatement, c'est l'État congolais qui doit centraliser. Et je pense que, à entendre la communication du gouvernement, il y a déjà une coordination, n'est-ce pas, et qui fait son boulot. Malheureusement, les effets ne se font pas assez sentir seulement sur terrain. Mais il y a déjà une coordination, donc je demanderai à tout le monde, plutôt que de faire et fournir des efforts dispersés, on ne va pas y arriver. Il y a un premier point, par exemple, d'identification. Est-ce que vous savez, à ma connaissance, que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre des gens qui sont à sac avec exactitude? Parce qu'au fond, l'humanitaire demande l'exactitude, au moins, avec
on
des marques d'erreur.
On doit commencer par identifier
rapidement ces gens-là. Ça fait plus de 9 jours, mais les gens ne sont pas toujours identifiés. Donc, le mouvement des gens ne sont pas maîtrisés. Ça, c'est une petite défaillance et on demande rapidement à toutes les organisations au niveau international, à l'État congolais, de faire rapidement ce travail et de le disponibiliser. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé, mais ça traîne un peu. Ce qui fait que la coordination a une difficulté. Maintenant, il y a des élans.
Quel est le service de l'État qui doit s'occuper de tout ça?
Le ministère
des Actions Humanitaires.
Des Actions Humanitaires, des Affaires Sociales. Au fond, pour l'instant, ça va, ce sont le ministère qui doivent essayer de coordonner. Et je pense que c'est déjà fait. Pourquoi? Même l'urbanisme, ça va. Parce qu'il y a des maisons qui ont été détruites. Et je pense que j'ai ouï entendre. Je pense qu'on aura les gouvernements pour nous le confirmer, que peut-être on va octroyer 20 tôles à toutes les personnes qui ont perdu leur maison à Bouéné. On n'a pas encore la confirmation de la chose, mais ça serait toujours déjà un bon point. Vous comprenez qu'il y a des ministères qui se entrepénètrent et qui doivent faire leur boulot. C'est vrai qu'il y a eu un problème de communication. J'espère que le gouvernement va vite résoudre ça. parce qu'on ne savait plus c'est lui qui communiquait. Est-ce que c'était Muyaya, le ministre? Est-ce que c'était la représentation de cette ministre qui était allée à Goma?
Est-ce que c'était le gouverneur?
Vraiment,
il y a eu cacophonie.
Et malheureusement, c'est à cause des psychoses. Les gens blaguent, mais c'est terrible. Parce que les gens se déplacent, reviennent et partent en fonction de tout ça. Ce qui fait que le gouverneur n'a pas encore dit que les gens retournent, mais vous avez vu qu'il y a maintenant retour d'une façon massive de la population congolaise. Donc, pour l'instant, je pense que le gouvernement doit tout faire pour maîtriser la situation, comme le président l'a si bien dit. Il a si bien dit que la situation est maîtrisée, mais catastrophique. Alors, monsieur le président, maîtrisez la situation, pas seulement à Kinshasa ou bien dans des bureaux, mais c'est surtout sur terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut d'abord commencer par identifier où, parce qu'il y a des gens qui sont dans des familles d'accueil.
Tout à fait.
Alors il y a besoin d'abord de trouver des centres d'accueil, aménager des espaces. Comment ça doit se faire, professeur?
C'était prévu dans le plan de contingent, je répète, c'était pas fait. Mais à ce moment, on trouve que il y a par exemple à Bukavu, mais avec 300 personnes seulement, c'est trop peu. À Sake,
là,
il n'y a pas
un seul site, les sites
des exactement. À Sake, on est en train d'aménager, là où je vous parle. Selon mes petites informations, je vous ai dit, j'aime vérifier de moi-même. On est en train d'aménager. Il y a des organisations qui ont amené des bâches. Mais jusque là, il y a de petites maisons qui commencent à se construire par-ci, par-là. Sans qu'on dise que c'est vraiment ça les sites d'accueil. Ah voilà, ça c'est dangereux.
Ça on l'a pas dit.
Non, on ne l'a pas dit.
Et que voilà site les sites. Voilà. S'ériger de manière spontanée.
Apparemment, il y a des gens qui commencent à construire des ONG parce qu'on a peut-être attrapé 50 sacs, 50 bâches et on essaye de construire pour des gens qui sont dans la rue, sur la rue, au long de la rue. Ce qui fait que je pense que il faut que le gouvernement puisse tirer attention avec l'OCHA. Qui est en train de le faire, qu'il n'y ait pas de cacophonie, sinon ça risque d'être un désordre humanitaire terrible. Et quand il y a un désordre humanitaire, c'est-à-dire que l'aide ne sera pas efficace. Là, c'est sûr et certain. L'aide va être dispersée comme aujourd'hui, chacun se réveille et donne quelque chose. Donc, il y a du débrouillardisme qu'on encourage, malheureusement. On encourage, mais on demande à l'État congolais
de coordonner tout ça.
C'est ce qui manque jusqu'à preuve du contraire. Il y a cette récupération politique qui a été...
Ça, les politiciens,
ce sont des choses qui arrivent, mais c'est grave. Parce qu'au même moment, ce sont ces politiciens-là qui ont dirigé ou bien qui dirigent cette nation depuis plus de 20 ans. Donc, moi, je suis pas très d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes politiciens qui devaient mettre des structures avec le ministère des Affaires sociales, avec le ministère de la Recherche, etc., pour que ceci n'arrive pas. Donc, ils ne doivent pas venir sortir, devenir des Moïse, comme dans la Bible, n'est-ce pas? Excusez-moi.
On est dans une situation d'urgence, il faut vite intervenir.
Or, moi, je suis un expert en développement.
Oui.
Donc, un expert en développement réfléchit à court, moyen et long terme. Donc, à court terme, faisons tout ce que nous pouvons et l'élan des solidarités, félicitations. Mais c'est plutôt à moyen terme qu'on doit avoir une leçon. On a un nouveau gouvernement, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas condamner 100% ce gouvernement. On a un nouveau gouvernement qui ne doit pas seulement réfléchir à court terme. On doit réfléchir pour une nation à moyen et long terme surtout. Mmh. Et c'est ce qui manque et j'espère. Si on me dit, comme on l'a dit et on l'a répété, on a été pris à court, il n'y a pas de moyens, on ne sait pas quoi faire. Et pourtant, je vous ai précisé la dernière fois ici qu'il y a eu même des exercices grandeur nature.
Oui, qui ont été faits,
effectivement, par rapport au volcan. Donc, le plan d'incontingence avait prévu un budget. Je le sais, je précise. Un budget pour l'évacuation, comment diriger les gens et mettre des sites d'accueil déjà en avance. Les gens devaient rencontrer les sites déjà installés et les sites étaient déterminés. Je précise, des experts sont allés vérifier quels étaient les sites le mieux pour une évacuation.
Un instant, professeur, on va accueillir Simon de Matadi. Bonjour, Simon.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Bonjour à vous et bonjour au professeur. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi à travers le monde. C'est Simon Tshilulu depuis Matadi, Congo Central.
Simon Tshilulu, nous parlons de la situation, la crise humanitaire au Nord Kivu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à cette crise qui est causée par l'éruption du volcan Nyiragongo?
Oui, d'emblée, je sais que... la République est beaucoup plus préventive. Vous savez, je cherche un peu à savoir ce fonds. Quand vous voyez le budget national, il y a une ligne budgétaire qui est prévue pour les catastrophes naturelles. Et cette ligne existe, elle est alimentée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va en faire avec, parce que souvent, lorsqu'il y a un problème, les cris vont directement aux humanitaires, à travers le monde, ainsi de suite. Parlez pas directement de cette ligne budgétaire. C'est un problème. Alors, moi, je pense...
Oui, Simon.
Non, pas une ligne. Et les éphémères, les aides humanitaires que nous les voyons, c'est dit au logement, ainsi de suite, pour quelques jours. Maintenant, il faut penser, ces gens doivent rentrer chez eux. Les informations mises à notre possession, il y a eu destruction totale de 5000 maisons. Et les maisons qui sont restées, il y a des fissures partout, ce sont des maisons qui sont déjà en danger d'écroulement.
Oui.
On nous a dit que le gouvernement prévoit en train de réfléchir sur la construction de 2000 maisons. Le vrai problème va se poser sur le retour de tous ces peuples qui s'est déplacé. Parce que je suis convaincu qu'ils ne feront plus une semaine ou deux semaines que cette situation sera décantée. L'éruption, les lèvres, là, tout ça vont devoir disparaître et les choses vont rentrer à la normale. Maintenant, les gens qui vont rentrer, les magasins ont été totalement délabrés, des maisons circuitées, il y aura des grands problèmes. Moi, je pense que, outre que nous sommes en train de chercher comment loger ces gens, et d'ailleurs, nous disons déjà merci pour les familles qui ont accepté d'accueillir certains d'entre eux. Et nous nous ferons aussi plus, mais avec la fermeture des aéroports, ça devient un autre problème parce que il y a des familles qui peuvent être déplacées plus loin de Nord Kivu. Mais avec
mais l'aéroport de Kavumu, on a appris, a été réouvert.
Tout à fait.
Oui, si on a réouvert, ça serait déjà une bonne chose pour permettre certains humanitaires aussi d'y arriver. Un autre problème, pendant la COVID-19, on avait créé une commission, je crois on avait mis des prêtres catholiques et des protestants qui ont délégué leur frère pour supporter les effets, tout ça, tout ce qui veut, ils mettent les fonds dans cette caisse-là. Vous voyez les problèmes que nous avons, même ces gens-là n'ont jamais rendu compte à la population. Voilà, nous avons reçu autant d'un tel, le montant est un tel. Maintenant, comme le cas ici est urgent, on peut d'abord utiliser ces fonds-là. Nous ne savons pas combien ils ont pu... Ce qui met en doute certaines personnes de bonne volonté.
D'accord. Et... Merci, Simon. Merci, Simon Sululu, professeur Dadi. Rapidement, oui. Avant de suivre les informations.
Oui, naturellement, je demanderai que cet élan de solidarité puisse continuer. Ça, c'est très important que toutes les personnes de bonne volonté capables de cotiser même $1, même 1 000 francs, de le faire.
Oui, il y a Chadrak qui nous l'a dit d'Mboujima. Les gens veulent donner.
Les gens veulent.
Mais comment envoyer cet argent-là?
La plus grande confiance, c'est le gouvernement. Les gouvernements devra continuer à avoir une coordination pour la solidarité, pour encourager cet élan.
Professeur Dadi Salé, expert en développement, je vous garde. On va suivre les informations tout à l'heure. Et nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission au Capi Service pour parler de la crise humanitaire au Nord Kivu, comment y faire face. Restez branchés. Révérend Jean-Pierre Kadima, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous parlons de la crise humanitaire au Nord Kivu causée par l'éruption du volcan Nyiragongo. Alors, au niveau de votre fédération, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour apporter une assistance aux sinistrés du Nyiragongo?
Merci pour cette question importante. Et la situation de l'éruption de volcanique à Nyiragongo touche le monde entier secoué. Et en tant qu'organisation d'abord internationale et qui s'occupe des familles,
Nous avons d'abord cherché à identifier les familles de notre mouvement qui sont sinistrées, parce que au nord Kivu, au sud Kivu, nous avons beaucoup de nos membres. Et nous avons un grand nombre de membres, hommes et femmes, nous avons identifié le nombre, et puis cherché à les déplacer de Goma vers Rutshuru. Il y en a qui sont à Sake, il y en a qui sont à Bukavu, il y en a qui sont à Beni, et nous connaissons déjà le nombre d'enfants, le nombre de hommes et femmes, et nous avons également une organisation philanthropique, Fondation de secours et d'amitié, notre responsable qui était aussi parmi les victimes est déjà dans l'équipe des humanitaires sur place et pour la prise en charge de certaines personnes. Mais nous ne sommes pas seulement limités au niveau des membres de notre fédération, de la fédération de famille, mais c'est une question qui concerne aussi, nous allons aussi penser aux autres, à toutes les familles qui vivent dans une ville, toutes les familles qui sont déplacées, ou bien toutes les familles qui sont à Goma. Donc, nous avons déjà fait un premier pas pour leur envoyer ce qu'il faut pour qu'ils achètent des bâches, parce qu'ils ont quand même un endroit où rester, il y a un problème de besoin en eau. Nous avons acheté ce qu'il faut pour nos familles, et nous avons mobilisé nos membres, nous avons ouvert un compte, et nous avons mobilisé nos membres à travers le monde, qui donnent déjà des contributions, pour que nous puissions élargir notre intervention au niveau de toute la population du Nord Kivu. Voilà ce que je peux dire pour répondre à ta question.
Bien. Restez en ligne, on va accueillir l'honorable Juvenal Munobo, président de la Synergie Urgence Goma. Honorable Juvenal, bonjour.
Bonjour, Jody Kachama.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse à la crise humanitaire causée par le volcan Nyiragongo. Environ 400 000 personnes ont quitté la ville de Goma pour aller certains vers Sake, Rutshuru, Bukavu, d'autres dans les villes du Rwanda. Alors, honorable, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut coordonner l'assistance humanitaire en faveur de ces sinistrés?
D'abord, la synergie Urgence Goma, il faut d'abord la présenter. C'est une initiative des leaders politiques, des leaders de la société civile et des chefs coutumiers des deux provinces, c'est-à-dire la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nous avons été créés justement au lendemain de l'éruption volcanique pour nous informer auprès du gouvernement sur comment le gouvernement organise la réponse humanitaire, mais aussi donner l'information à la population, identifier les défis. Les défis, c'est l'absence d'eau potable dans les sites, l'absence d'abri, l'absence de nourriture, et proposer des pistes et des solutions. Alors, comment est-ce que on peut assister les populations? Évidemment, ils font un plan de contingence, parce que le gouvernement nous a dit qu'il a un plan de contingence. Nous avons entamé des échanges avec les membres du gouvernement. Aujourd'hui, nous venons de rencontrer le ministre de l'Agriculture, qui était d'ailleurs dans la délégation du gouvernement. Et nous avons rencontré il y a deux jours les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur. Il y a une assistance que le gouvernement a pu mobiliser, mais il en faut davantage, parce qu'il y a beaucoup de déplacés, et des déplacés qui manquent presque de tout, quoi. Il manque l'eau potable, il manque de la nourriture, il manque les abris provisoires. Alors, il y en a de ceux qui sont à Sake, comme mon prédécesseur le disait. Il y a ceux qui sont à Minova, et il y a d'autres qui sont à Bukavu, et il y a d'autres qui sont à Rutshuru.
D'autres sont arrivés à Beni, même à Bunia.
Oui, il y a d'autres qui sont au Rwanda. Il faut pas oublier aussi ceux qui sont partis de l'autre côté de la frontière. Donc, il y a eu des bandades, hein, surtout lorsque... et d'ailleurs, c'est sur base d'ailleurs des rapports des scientifiques. Lorsque le gouvernement militaire a demandé à la population d'évacuer la ville, c'est à ce moment-là que les mouvements, il y a eu des mouvements dans tout le sens. Il y a aussi des mouvements de retour qu'on note, hein. Il y a ceux qui quittent les lieux de déplacement et qui rentrent sur Goma. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord l'assistance pour ceux-là qui ont quitté. Il faut aussi un appui aux familles d'accueil, parce qu'il y a beaucoup de familles d'accueil congolaises à Sake, à Minova, à Bukavu, qui ont accueilli des gens. Donc, il ne faut pas seulement se limiter à assister des déplacés. Il faut aussi penser aux familles d'accueil. Et il faut aussi donner la vraie information à la population sur l'évolution sismique. Est-ce que les tremblements de terre qu'on continue à ressentir. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'une deuxième éruption volcanique ou d'une émanation des gaz? Il faut pour cela vraiment que les scientifiques collaborent avec le gouvernement, des scientifiques congolais évidemment, mais également ceux de la communauté internationale, pour que l'information soit donnée et que cette information soit donnée à temps réel. Il ne faudrait pas passer beaucoup de temps sans avoir les mises à jour en termes d'information. Mais aussi, il faut vraiment faire le suivi de toutes ces initiatives ici. Alors nous avons montré toute notre disponibilité à être associés au gouvernement pour cela. Nous l'avons dit au ministre de l'Agriculture, qui est membre du comité des crises du gouvernement, et il a dit qu'il va en parler à ses collègues pour qu'éventuellement la synergie puisse être jointe aux réflexions au niveau gouvernemental pour assister les déplacés.
Oui, honorable, vous dites qu'il y a un comité des crises, mais est-ce qu'il y a une structure chargée de la coordination de tous ces élans de solidarité? Ça bouge de partout, les gens veulent contribuer avec les dons, avec l'argent pour assister les sinistrés de Goma, mais quelle est la structure gouvernementale qui va recueillir et coordonner tout ça?
À ma connaissance, il n'y a pas encore une structure qui pourrait évidemment accueillir les contribution des uns des autres, mais c'est un besoin que vous soulevez là-bas. Il existe un comité gouvernemental des crises, composé des membres du gouvernement. Alors nous allons nous informer davantage. Je vais m'informer davantage et pourquoi pas suggérer à ces comités-là. Ou en tout cas, il faut qu'il y ait, comme vous le dites si bien, il faut qu'il y ait une structure permanente qui pourrait recevoir les éventuelles contributions. Moi, j'ai appris qu'il y a même des Congolais qui sont dans la diaspora, quoi, à Bruxelles, qui ont pensé commencer des collectes, quoi, pour aider leurs compatriotes en détresse, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont en détresse. Ceux qui ont quitté Goma, c'est pas évident qu'ils ont l'eau en permanence, et puis l'eau potable. Il y a eu quelques assistances, quand même, il faut le dire, le gouverneur militaire de Goma a donné quelque chose. Mais il en faut davantage. Et ça, on l'a dit aux membres du gouvernement. Et ils en sont conscients, d'ailleurs.
Bien.
Voilà. Il y a l'Église catholique qui fait le recensement des déplacés à Bukavu à travers les CVB, les comités ecclésiales des vivantes, quoi, les chéricas, pour identifier les déplacés. Bref, il y a, tout le monde s'active, mais jusque-là, il faut vraiment une grande assistance, aux déplacés. Ce que les déplacés devraient recevoir, ils ne l'ont pas encore reçu. Et puis c'est venu un peu comme ça, ça a donné l'impression que ça a pris des cours tout le monde, et même le gouvernement. Alors c'est le moment où il faut vite agir pour assister le déplacé et surtout suivre d'un point de vue technique et relayer l'information par rapport au volcan. Et s'il y a à donner des assurances à la population. S'il faut dire à la population de rester encore vigilant, il faut le dire. Est-ce que Goma en soi est déjà sécurisé? Alors toutes ces informations, il faut le donner parce qu'il y a des mouvements de retour vers Goma, mais les gens ont besoin des assurances s'ils sont en sécurité ou s'ils peuvent encore quitter ou se mettre à l'abri. Donc il faut vraiment de l'information scientifiquement vérifiée et que l'autorité peut relayer.
Alors on peut dire que l'objectif de la synergie, c'est de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour une réponse urgente.
Tout à fait. Donc, comme nous sommes des leaders, nous voulons nous établir un peu comme un pont entre les déplacés, la population qui souffre, et les gouvernements. Donc, nous voulons un peu agir. Et c'est ça, d'ailleurs, le rôle d'un organe de plaidoyer. Nous voulons faire le plaidoyer. Et l'information que la population n'a pas, nous pouvons l'avoir grâce à nos échanges avec les membres du gouvernement et que nous puissions relayer cette information. Le gouvernement peut avoir quelque chose qui est mobilisé, alors c'est à nous de sensibiliser et de suivre si ça atteint effectivement les bénéficiaires. Il n'y a pas que le gouvernement, nous mettrons en contact aussi avec la communauté internationale. Nous avons demandé audience auprès du coordonnateur humanitaire, nous attendons à être reçus là-bas aussi. Donc nous voulons nous constituer vraiment un pont entre la population et les gouvernants, donc le gouvernement, mais également entre les déplacés et la communauté internationale, et pour nous assurer que tout est bien suivi et que les bénéficiaires trouvent ce qui a été mobilisé pour eux, et que l'information soit donnée et que des assurances, s'il le faut, soient données à la population.
Bien, restez en ligne, honorable. Le temps de... Je vais donner encore la parole au révérend Jean-Pierre Kadima, président... régional de la Fédération des familles pour l'unité et la paix dans le monde. Révérend Jean-Pierre, comment est-ce que votre fédération compte, quelle est la nature de l'assistance que vous comptez apporter aux sinistrés de Goma? Révérend Jean-Pierre? Voilà, il n'est plus en ligne. On va accueillir Docteur Kipasa Anissé, de Kikwit. Bonjour. Docteur Anissé, vous êtes là? Ben, il y a quelques soucis. Docteur Anissé n'est pas là. Alors, honorable Juvenal, je reviens à vous. S'il faut mettre en place cette coordination, comment ça doit se passer? Est-ce que ça doit se faire, par exemple, au niveau du ministère de l'Action humanitaire? Ou bien c'est une coordination qui regroupe plusieurs mouvements, et la société civile et même les honorables députés?
Alors, nous pensons, s'il faut mettre cette coordination en place, évidemment, le ministère de la Solidarité, Affaires humanitaires, c'est le ministère qui est en principe le plus concerné par ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le ministère de l'Agriculture aussi qui interagit avec des institutions comme le PAM, FAO. Mais il faudrait aussi le ministère de la Sécurité. Vous savez, il faut sécuriser les sites des déplacés. Vous savez, au Nord Kivu, il y a encore beaucoup de groupes armés. Alors, nous pensons que ça ne doit pas se limiter aux membres du gouvernement. Évidemment, il faut aussi la société civile, surtout les acteurs communautaires qui ont montré leur disponibilité à réfléchir. Et pour nous, nous sommes tout à fait disposés, c'est au gouvernement d'apprécier, pour que nous puissions réfléchir ensemble. Évidemment, ça doit associer aussi ces comités, ça doit associer aussi la communauté internationale également, parce qu'ils peuvent aussi mobiliser à partir du système des Nations Unies ou de la communauté humanitaire des assistantes. Alors, il y a moyen de mettre sur pied une structure un peu comme ça, tripartite, et que cette structure, ça doit associer l'OVG aussi, quadripartite. Alors, cette structure doit donner l'information à temps réel, parce que les gens ont besoin de l'information à temps réel. Ceux qui sont rentrés à Goma, ils ont encore la peur au ventre, donc ils doivent savoir, est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce que Goma est déjà, est-ce que les tremblements sont passés? Est-ce que les petits tremblements qu'on continue à ressentir, est-ce qu'il n'y a pas de risques majeurs? Alors, il faut donner la vraie information et la donner à temps réel. Mais aussi, il faut que la pouille soit mobilisée, l'assistance soit mobilisée, et cette assistance doit être composée de l'eau potable d'abord, des vivres, des abris provisoires, des soins médicaux. Nous pensons aussi qu'un autre acteur qu'il faut associer, c'est le secteur privé. Les opérateurs économiques, ils doivent aussi être associés. Ils peuvent avoir quelque chose à apporter pour financer la réponse. Et donc, pour ainsi dire qu'on n'attendons pas tout du gouvernement. Il y a une part du gouvernement, il y a une part de la communauté internationale, il y a une part du secteur privé. Et il y a une part des leaders communautaires. Alors, c'est comme ça qu'on doit suivre cette réponse humanitaire, quoi.
Bien. Honorable Juvenal Munobo, président de la Synergie Urgence Goma, merci. On aura l'occasion de vous rappeler prochainement pour savoir comment la situation évolue. Excellente journée et à la prochaine.
Merci, Jodine Kachama. Bonjour à tous les auditeurs.
Bien. Docteur Anissé Kipasa, bonjour.
Bonjour aux intervenants et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Docteur, vous êtes à Kikwit, nous parlons de la crise humanitaire causée par le volcan Nyiragongo. Il y a des besoins humanitaires, il faut une réponse d'urgence. Alors d'après vous, comment tout cela doit être organisé, surtout sur le plan médical?
Merci Jody, j'ai bien suivi le professeur, j'ai suivi l'honorable député et tout à l'heure là le reverrant, je crois. Je voulais dire ceci, vous m'avez pratiquement coupé l'herbe sous le pied parce que l'honorable président a la question de voir s'il y avait une structure de coordination. Le gouvernement de la République, le président de la République, ils ont donné pratiquement l'alerte et ils sont sensibles à ce qui se passe là-bas. Mais la gestion des catastrophes, tout comme à l'instar de la gestion des épidémies, c'est exactement la même chose. Il faut que sur place, sur le terrain... Et je crois, c'est pas la première fois que nous avons des catastrophes naturelles de ce genre-là. Et il y a OCHA, il y a la division provinciale de la santé, il y a le ministère. Il faut un effort multisectoriel avec le ministère de la santé, l'agriculture, j'ai entendu. Il y a le ministère des affaires sociales, l'information pour coordonner ces actions. Il faut pas qu'on dise théoriquement, comme disait le professeur, le gouvernement doit coordonner. Nous, la division provinciale de la santé, avec les autres départements, ils sont sur place, sur le terrain. Ils ont déjà l'évaluation des urgences, des problèmes, avec différentes commissions. Ce que l'honorable a dit là, ça entre dans la mobilisation de ressources. Ils font très bien, l'honorable a très bien parlé. Ils vont mobiliser des ressources en fonction des besoins sur le terrain. Mais sur place, il faut qu'il y ait une coordination pratique, locale, des gens qui se réunissent chaque jour avec, comme on le fait pour le Covid, pour Ebola, pour tout.
Oui.
Il faut une gestion pratique de ce qui se passe là, avec différentes commissions qui voient chaque jour. Est-ce que les gens qui se sont déplacés, est-ce que Ocha l'a dit, dépasser 48 heures, parfois les urgences ne sont plus des urgences. Il y a des enfants qui se promènent partout. À la fin, il y aura des problèmes sanitaires. Mais avant ces problèmes sanitaires, le président de la République l'a dit, il y a des gens qui vont retourner les défis. Il y aura des gens qui n'auront pas de maison.
Docteur, voilà. Docteur Anissé, qui doit mettre en place cette commission, disons, multisectorielle, qui doit coordonner tout ça? Parce qu'apparemment, les besoins sont là, mais l'organisation traîne un peu.
C'est vrai. Actuellement, c'est ça. Parce que vous avez vu, les églises interviennent, les partenaires, ce sont des efforts isolés. L'élan de solidarité devient, chacun veut faire quelque chose, mais il faut que ce soit sous la coordination. C'est lui qui doit le faire, parce que dans chaque province, la division provinciale, chez nous, ça va automatiquement. Le ministère de la Santé, à l'époque, avait conçu dans chaque province un plan de contingence. Chaque fois qu'il y a cette situation, on sait qui doit faire quoi et quand est-ce et comment est-ce qu'ils doivent le faire. La gestion pure et simple. La division provinciale. Je prends par exemple, là où nous sommes, le gouverneur qui représente le président de la République, immédiatement, il doit actionner par rapport au plan de contingence. Le médecin chef de division, le médecin inspecteur, le responsable des affaires sociales, tous doivent se mettre ensemble sous une présidence, sous la présidence du gouverneur, et tous les autres, qu'ils soient beaucoup plus pratiques et pas en disant tel voudrait venir donner ceci. Parce que même les humanitaires qui viennent là, ils ont des domaines spécifiques, des domaines précis. Qui va s'occuper de l'eau? Qui va s'occuper
Des malades? Des sanitaires, voilà, par exemple.
Et autrement, vous allez voir, bientôt, Médecins sans frontières va venir. L'OMS, qui d'habitude, un grand partenaire, l'OMS, l'UNICEF, qui coordonne, qui vient souvent appuyer les coordinations. Vous allez voir. Mais il faut que ce soit, nous sommes habitués à cela, et les personnels, les ressources sont là, là où il y a cette crise-là. Les ressources, je suis sûr au ministère de la Santé, au ministère des Affaires Sociales, et d'ailleurs, même au ministère des Actions Humanitaires, là où Steve Mbika a été. Je crois que y a une action multisectorielle. Les ressources humaines sont là, à Goma, à Kinshasa, partout. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus pratique. Et en attendant, le gouvernement a fait beaucoup, mais la coordination pour diriger les actions sur le terrain, comme vous avez posé la question à l'honorable, il a reconnu, il a été honnête, il dit actuellement, il n'y a pas. On sent que c'est un peu de l'amateurisme. Chacun veut venir apporter quelque chose, mais il apporte par quel canal? Ça ne peut être que sous la coordination. L'expérience, je dis.
Docteur Kipasa, est-ce qu'on peut dire qu'il revient au ministère de l'Action humanitaire de prendre le lead de ce comité multisectoriel?
Par exemple, qu'il mette autour de lui les ministères de la Santé, les ministères même de l'Agriculture. C'est lui qui va prévoir pour tout ce qui concerne la météorologie, par exemple. Tout ça, ils doivent être autour de l'action humanitaire. Regarde, Jody, l'instrument que nous avons utilisé dans la lutte contre le Covid, ça a été initié par l'action humanitaire, je crois, le programme national. Donc, même le programme national, et tout le monde se met autour de l'action humanitaire, la santé, et tout. Vous allez voir que les choses vont aller facilement et on saura déterminer exactement le besoin et les prévenir. Et même, je parle du ministère de l'Information pour la mobilisation sociale, parce que le plaidoyer, c'est pour rassembler le moyen, les ressources. Mais il y a aussi l'éducation de la population qui doit dire, regardez comment vous devez vous comporter par rapport à ceci, par rapport à cela. Pour la réintégration des populations, qui était le défi, le souci du président de la République? Là aussi, les affaires sociales, l'action humanitaire, avec toute l'équipe de la santé et des autres, je crois que ça va aller et nous allons réussir jeudi.
Bien, merci docteur Anissé Kipasa de Kikwit. Nous allons, je vais donner la parole de nouveau au révérend Jean-Pierre Kadima, président régional de la Fédération des familles pour l'unité et la paix dans le monde. Révérend Jean-Pierre, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà. Avant d'aller plus loin, pouvez-vous d'abord nous présenter cette fédération, la Fédération des familles pour l'unité et la paix dans le monde?
La Fédération des familles pour l'unité dans le monde, c'est une organisation fondée par le grand docteur Sam Nyang-moon, qui existe depuis 1954, qui est éparpillé dans le monde, qui s'occupe de l'éducation des familles spirituellement et extérieurement, et aussi qui a des projets, qui a une organisation sœur, la Fédération pour la paix universelle, qui travaille avec les humanitaires, qui travaille avec tant d'organisations, les chefs de l'État et tant d'autres organisations. Ici, il est question, d'abord, comme je vous l'avais dit, d'identifier nos membres parce que nous sommes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et dans 194 nations dans le monde. Nous avons d'abord essayé d'identifier le problème de nos membres. Nous connaissons déjà le nombre et nous avons fait le rapport. Les contributions sont en train de venir. C'est comme mes prédécesseurs disent que nous allons créer la cellule de coordination qui va devoir ordonner si nous avons une aide à apporter, en quoi, pour nos membres, nous connaissons déjà. Je vous ai dit que nous avons une fondation de secours et d'amitié. Le responsable est parmi les victimes, il est là-bas. Il a été incorporé dans le groupe des humanitaires et ils ont identifié le besoin. Dès qu'ils nous donnent le rapport, nous saurons où, comment prendre soin des enfants, comment prendre soin des familles qui se sont déplacées,
Révérend, il y a d'abord un besoin par rapport au logement. Les gens qui vont vers Sake, qui vont à Bukavu et ailleurs, n'ont pas d'endroit où rester. Certains restent dans des familles d'accueil.
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à Sake, nous avons des familles qui sont là-bas, qui ont accueilli même d'autres membres. À Rutshuru, nous avons un centre et nos membres restent là-bas et de certaines familles aussi ensemble avec eux. Ils sont avec, c'est pourquoi nous avons demandé qu'on identifie nos membres et les personnes qui sont ensemble avec eux. Nous allons mettre à la disposition de ceux qui se déplacent nos centres là où ils se trouvent pour qu'enfin nous puissions coordonner cela. Et nous avons déjà envoyé un peu de moyens en termes de logistique pour avoir des bâches de couverture afin de protéger les familles qui sont sur place.
Et ces bâches et ces couvertures sont arrivées comment à Goma? Parce que l'aéroport est fermé. Est-ce que vous êtes passé par Bukavu ou par une autre ville?
Nous avons envoyé de l'argent sur place pour qu'ils achètent, qu'ils se procurent là-bas sur place. Maintenant, nous allons voir la possibilité, avec les autres contributions qui vont venir de nos membres qui sont mobilisés au Japon, en France et partout, quand la cellule de coordination, quand les aéroports seront ouvertes, et nous saurons comment faire parvenir ce que nous avons préparé pour les sinistrés à Goma, tout comme à Bukavu, ou bien à Rutshuru, à Sake, où se trouve déjà le grand nombre de déplacés.
Et révérend, vous préférez évoluer en solo ou bien vous pouvez rapprocher le gouvernement ou travailler en synergie avec d'autres organisations pour une action beaucoup plus efficace?
Nous n'avons jamais voulu travailler en solo. Nous avons toujours, la Fédération des familles, tout comme la FPU, a des organisations et ils cherchent toujours à travailler en collaboration et avec le gouvernement et avec les autres entités. Mais si nous sommes repoussés et que on nous traite toujours comme d'habitude, de la manière dont les gens pensent, nous allons travailler en solo parce qu'il s'agit d'une action humanitaire qui demande à ce que nous puissions intervenir. Notre désir, c'est de nous joindre, j'aime de s'y nommer, à ceux qui sont sur place, entre autres le gouvernement et d'autres organisations. Nous sommes prêts et disposés à le faire.
Alors, s'il y a certains membres de votre organisation qui veulent contribuer, comment, y a-t-il un numéro ou comment ça se fait de manière interne? À l'interne, je veux dire.
Pour récolter les contributions. À l'interne, il y a un site et un numéro qui a déjà été envoyé par WhatsApp dans le lien. Il y a le lien et les gens s'enregistrent, ils font leur contribution par PayPal. Nous avons essayé, parce que c'est à partir du Japon que ça a été organisé, mais le système qui était organisé auparavant n'a pas marché, ainsi que nous avons eu un autre lien qui est fait à partir de l'Amérique et par PayPal. Les dons sont reçus et nous avons le rapport, le don en argent.
et nous avons le rapport à chaque instant. Jusqu'à là, il y a le comité d'organisation qui s'en occupe, la coordination s'en occupe, et après, ici, je vais voir le rapport, combien il y en a, comment nous allons faire pour parvenir ça à nos frères et sœurs qui sont à Goma ou à Sékou partout.
Pour terminer, révérend Jean-Pierre Kadima, un message d'encouragement à tous les sinistrés qui vous écoutent en ce moment.
Oui, nous sommes ensemble, nous sommes de cœur avec eux. C'est une question humanitaire qui concerne tout le monde. Nous sommes là en train de travailler et de cœur avec eux. Nous savons que ce sont des catastrophes naturelles qui sont arrivées au moment où on ne s'attendait pas. Nous ne devons pas paniquer. De cœur, nous sommes ensemble et nous allons travailler pour pouvoir les soutenir en prière et en envoyant nos dons pour que cela puisse les soulager. Nous savons qu'il y a des tant d'hectares qui sont ravagés, il n'y a pas de maison, il y a des enfants déplacés. Nous sommes en train de chercher comment nous pouvons soulager, comment nous pouvons soutenir. Nous sommes ensemble avec eux, ils n'ont pas de décourager.
Bien, révérend Jean-Pierre Kadima, président régional de la Fédération des Familles pour l'Unité et la Paix dans le Monde, merci.
Mais c'est moi qui dois vous remercier, monsieur le journaliste.
Le magazine des Nations Unies. Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Bien, comment faire face à la crise humanitaire causée par le volcan Nyiragongo ? Bien, professeur Dadi Salé, vous êtes notre invité permanent, vous avez suivi tout ce qui a été dit en ces lieux. Votre commentaire.
Au fond,
je résume. Celui qui dirige les actions humanitaires, ça doit être les gouvernements, personne d'autre. Mmh. Et ici, comme on le sait, c'est en collaboration bien sûr avec OCHA. OCHA qui représente le grand nombre des organisations, non seulement les Nations Unies, mais il y a aussi les organisations locales qui participent à des réunions d'OCHA et qu'il y a des clusters. Donc, il ne faut pas qu'on donne l'impression comme s'il n'y a pas une organisation. Certes que l'organisation, malheureusement, semble être pas assez efficace pour l'instant, mais il y a déjà une organisation. Et l'organisation et la collaboration existent déjà depuis un temps.
Mais qui ne communique peut-être pas assez.
Malheureusement.
Ou... Voilà.
Et je suis désolé de le dire, puisque je blaguais avec mes gens sur terrain, mes amis sur terrain, ils m'ont dit, mais ce sont les organisations qui ont été les premières à fuir. Comment est-ce qu'ils vont coordonner les organisations humanitaires? C'est une petite blague, mais j'ai pris ça très au sérieux.
Oui.
Comment est-ce que les organisations, dans beaucoup de sens, ont été les premiers à fuir et comment est-ce qu'ils vont organiser
la réponse
effectivement oui. humanitaire? Mmh. Cela étant, nous comptons toujours sur la grande organisation. Pourquoi? Parce que l'organisation humanitaire est très capitale. Je précise qu'il suffit pas de récolter de fonds, s'il vous plaît. Il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté. Le grand risque d'avoir de double, triple distribution à une réponse humanitaire par rapport aux besoins humanitaires est très grand et ça serait une perte. Non seulement
il faut commencer par évaluer ces besoins.
Naturellement, il faut avoir le cadre, je précise. Et ce cadre ici, c'est les gouvernements et un peu cette organisation OCHA, entre guillemets. Cela n'exclut pas qu'il y ait des bonnes volontés comme on est en train de le voir. Je vous donne un exemple simple. Eh ben, je fais partie des clubs de basket, des amis, UCB, etc. Là, ce sont le basketteur qui sont en train de servir aux amis basketteurs qui sont arrivés à Bukavu. C'est un exemple. Et l'UCB a mis en place les étudiants, ok, qui peuvent être dans des homes, etc. Donc, cet élan de solidarité, je confirme, est là. Et il y a multiples maintenant appels des dons. Vous me suivez? Alors, on va offrir à qui et qui nous garantit que ça va arriver? C'est là où j'en appelle à la responsabilité de l'État congolais.
Parce qu'il y a des opportunistes qui peuvent
malheureusement
détourner les dons, recevoir l'argent et disparaître.
On en a vu à plusieurs reprises.
Oui, oui.
Donc on ne devait pas risquer que chacun puisse faire ça en solo. La grande mobilisation doit être faite par le gouvernement congolais. Donc, le premier ministre qui est en train probablement de nous écouter a une grande responsabilité. J'ai bien démontré que c'est facile d'avoir 50 millions de dollars. en République démocratique du Congo.
On a quand même un peu de temps.
Un peu de temps, c'est simple. Je dis juste ouvrir cette caisse, avoir une coordination crédible.
Donner un numéro,
deux, trois numéros et bancaires à la radio Okapi, à toutes les chaînes, à la RTNC, que cette campagne de solidarité puisse se faire déjà. On ne sent pas cette campagne. Donc, cher Premier ministre, chef du gouvernement, s'il vous plaît, concentrez-vous sur ça et je vous assure, vous serez le plus grand bailleur de fonds, plutôt que le, excusez-moi le mot, un peu quémandaire. Hein? On a un peu ce sens-là où nous ne faisons que demander, non.
Comptez sur les humanitaires.
Je trouve que c'est ridicule, je l'ai dit, les humanitaires doivent venir aider, donc emmener un peu un plus. Donc voilà ce que je peux sentir pour l'instant. Ça se ressent dans cet élan de solidarité. Coordonnons l'élan de solidarité et on va être plus efficace. Plutôt que, et je l'ai précisé, excusez, c'est important, à court, moyen et long terme. À court terme, c'est l'immédiateté, puisqu'on a parlé des ministères des responsabilités. Oui. Donc là, naturellement, c'est le ministère des Affaires humanitaires, etc., rapidement. Oui. Mais à moyen terme, ce n'est plus de l'humanitaire, à 100%. À moyen terme, ça devient du développementaire. Dans le sens où les gens ont perdu de maison,
ils doivent reconstruire leur maison.
Ils ont perdu leurs fonds, leurs capitaux, leurs ressources pour produire et pourtant on a besoin de la production. Donc là, ce n'est plus de l'humanitaire, ça devient un autre ministère qui prend immédiatement les relais, mais qui doit commencer le travail aujourd'hui. Parce que le fonds qui sera récolté, peut-être que ça va aider effectivement. Moi, je parle par exemple de ces 80% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je vous donne mon exemple, soyons sérieux. Moi, ma famille est tranquille à Bukavu, vous mangez, boit tranquillement. À vous dire, j'ai pas trop besoin, ça va, du gouvernement pour ça. Mais 80% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en ont besoin. C'est-à-dire, effectivement, que le gouvernement doit nécessairement s'occuper à moyen terme de toutes ces familles qui ont perdu les 20 $, 30, 50, 100 $ de capital. Ça va. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les banques peuvent, avec l'aide du gouvernement, subventionner, avoir des fonds d'urgence où les personnes peuvent avoir des fonds, de moyens pour faire le business? Ça, c'est la question à moyen terme. Construire de maisonnettes, etc. C'est bien aussi, mais dans quel cadre? Parce que si vous construisez 100, c'est pour qui les 100 maisons? Ça va? Et alors là où il y a eu des fissures, etc. Donc tout un système financier, peut-être un montage financier, peut être mis sur place avec la Banque centrale pour faciliter le business. Parce que sans business, il n'y aura pas de développement durable. Et c'est-à-dire qu'à moyen terme et à long terme, cette population risquera de continuer à compter sur PAM et sur les organisations encore pendant 20 ans. Ce qui serait ridicule.
Bien. On va accueillir quelques auditeurs. Nous avons en ligne Kachai de Kanyoka et Malunga. Il est à Kinshasa actuellement. Kachai, bonjour. Kachai n'est plus là. Malunga, bonjour. Malunga non plus. Alors donc, il y a besoin aujourd'hui de mettre en place rapidement cette structure gouvernementale qui va canaliser, coordonner tous ces efforts afin que les efforts ne soient pas dispersés.
Tout à fait.
Et vous avez dit la première étape, il faut commencer par évaluer le besoin. Comment s'est fait cette évaluation, professeur?
Première chose, c'est identifier les personnes et les familles. C'est en train de se faire, mais ça a pris du temps. On a parlé des 400 000 déplacés, mais on ne sait pas combien sont à Sake, combien sont à Bukavu,
au Rwanda.
Jusque-là, on ne sait pas. Oui. Je peux le dire, je vous affirme, ça va, que jusque-là, personne ne le sait. Mais c'est en train de se faire. Donc, ça devait se faire très rapidement, parce que là, ça va démontrer comment on va canaliser les ressources.
Et maintenant, pour ceux qui sont dans les familles d'accueil à Bukavu, par exemple,
ils doivent être identifiés et c'est en train déjà de le faire. Donc, je ne dis pas que rien ne se fait. C'est en train de se faire, mais ça prend trop de temps. Voilà le vrai problème. Ça prend malheureusement trop de temps et une des définitions de l'humanitaire, c'est que ça ne peut pas prendre beaucoup de temps.
Non, c'est une urgence. On doit aller vite.
Non, on ne peut pas dire qu'on identifiera les gens après une semaine. Non. On est en retard. Donc le moyen conséquent devait se faire d'abord pour l'identification. Et maintenant, on s'est dit qui ont besoin accru d'eau. Parce que c'est pas tout le monde qui a besoin d'eau au même niveau. Par exemple, ceux qui sont à Bukavu n'ont pas peut-être besoin d'eau que ceux qui sont en cours de route à Minova ou bien à Sake. Ce n'est pas le même besoin. Qui ont besoin de biscuits énergétiques parce qu'il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui ont besoin, là où on a identifié beaucoup de malades, beaucoup de vieilles femmes, par exemple.
Les femmes enceintes,
etc. Donc, c'est sectoriel, le besoin doit être orienté par rapport à ces données. Tant qu'on n'a pas des données, chers amis, Ça signifie tout simplement c'est du désordre humanitaire. Or, le désordre humanitaire, je l'ai défini, c'est simple, ça risque d'être un gaspillage.
On peut aller donner de l'eau aux gens qui n'en ont pas besoin.
Donner des bâches aux gens qui n'en ont pas besoin. Oui. Donner des biscuits là où ce n'est pas vraiment le besoin essentiel. Donc, je pense que les autorités qui sont en train de nous suivre, s'il vous plaît, ne dispersez pas vos efforts. Coordonner plutôt les efforts et ici ayez les ressources nécessaires. Donc pour moi, le Premier ministre devait passer à la radio et à la télé. Le président de la République devait faire un appel solennel avec la coordination avec le Premier ministre de la solidarité nationale et que les moyens soient là. Parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut, ben s'il n'y a pas de moyens, grand chose ne sera pas fait. Ça, soyez sûr et certain. On va encore observer les gens et demander aux gens de ne pas retourner ou bien de retourner. Les gens vont retourner où? À Bouéné, parce qu'il n'y a pas de maison. En grande partie. Les gens vont retourner dans des maisons totalement.
Souvent dans les quartiers périphériques de Goma, là, les gens construisent en bois.
Oui, là, la grande partie des gens, effectivement. Donc, c'est facile quand même.
Facilement, on peut reconstruire ces maisons.
Et de faire des actions importantes, je vous assure, que personne n'oubliera. Mais il suffit tout simplement qu'il y ait une très bonne coordination et surtout dans la levée des fonds humanitaires, je précise. Parce que moi, Dadis Salé, avec notre théorie de Kujité Gemé, c'est-à-dire se prendre en charge, je le répète, on ne peut compter que sur, entre guillemets, les humanitaires, le fonds qui vont venir de l'extérieur après. Pas avant. Mais malheureusement, on fait l'inverse et on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas? Parce qu'eux fonctionnent avec leur propre vitesse. Vous me suivez? Les temps que le Japon va envoyer des fonds, les temps que les États-Unis vont se décider de mettre $1 million, ils sont libres. Personne ne peut leur exiger. Mais l'État congolais a une responsabilité immédiate envers sa population. Où aucun Congolais ne devait mourir de faim, n'est-ce pas? Aucun Congolais ne devait manquer de l'eau et pourtant nous avons la capacité de leur octroyer de l'eau. Ça, c'est la plus grande crainte et je demande au président de la République de tout
faire. Je me demande, ces gens, il y a des gens qui dorment à la belle étoile.
À la belle, et pas certaines personnes, beaucoup de gens.
Avec tout le froid qu'il y a, au nord qui vous.
Ce n'est pas comme ici à Kinshasa. Là, parfois, au niveau de Massissi, on peut arriver facilement à avoir 18, 17.
18 degrés.
Ben oui. Là, je passe, ce sont des zones montagneuses.
Montagneuses,
oui. Ben oui, il y a des endroits comme ça. Mais je pense qu'on peut être à 20, 21 degrés. C'est pas terrible, mais quand même, il y a l'intempérie. Donc, le coup de vent engendre beaucoup de maladies. Et juste dormir dans des conditions inadéquates, on risque de perdre beaucoup d'enfants. Parce qu'on ne va pas le perdre aujourd'hui.
On parlerait déjà de choléra.
Exactement. C'est bien identifié. Il y a déjà des choléras, même si je précisais que c'était identifié avant. Mais ça risque maintenant de se propager un peu plus et de prendre un peu trop d'allure. Donc je pense que gouverner, c'est prévoir. On demande au président de la République de tout faire pour lui-même. Être dans la communication. Parce qu'il est le père de la nation.
J'ai même suivi le président rwandais à lancer un appel au monde pour dire Goma, il y a une urgence et un appel mondial à l'aide.
Je suis désolé, vous savez que ça c'est un peu sensible, mais de toute façon, il faut que notre président soit au front. Dans la communication, puisqu'il est la personne la plus crédible de la République, normalement. Donc, si le président ne communique pas souvent, vous savez ce qui devait se faire? La présidence devait communiquer des chiffres, parce que nous avons le responsable Mouyaya, ça va, le ministre de la communication qui devait communiquer des chiffres. Pas de bonnes intentions la plupart des fois. C'est lui qui devait communiquer disant qu'il y a 400 réfugiés, voilà, à Beni. Nous avons 50 000 ici, par-ci, par-là, et voilà ce que nous faisons.
Peut-être qu'il y a des soucis par rapport à la collecte des informations sur place.
Ben, que font alors tous ces gens, le ministre qui sont allés là, ils sont allés faire quoi? Entre nous. Ils sont allés faire quoi? Ils devaient établir des canaux un peu plus sécurisés.
Des collectes des informations.
S'ils ne l'ont pas fait, alors bon, entre nous...
Bon, nous pensons que c'est en train d'être fait. Ils l'ont fait.
On ne le sent pas, malheureusement. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une mauvaise communication et ça crée des psychoses. On risque de ne pas récolter assez d'argent. Je viens de proposer 50 millions de dollars, pas 80 000 dollars, etc. Tout ça, c'est très bien, mais nous sommes une grande nation, s'il vous plaît. On ne doit pas se ridiculiser. Je m'excuse.
Même les 50 millions dont vous parlez là, c'est par rapport à quoi?
C'est encore peu.
Est-ce qu'on a évalué les
besoins? On n'a même pas évalué. Donc ça peut aller.
C'est juste des estimations.
Des estimations, parce que il faut dire gouverner, c'est prévoir.
Oui.
Je peux vous assurer, avec plus ou moins 500 millions de dollars, ça va, nous pouvons être capables d'endiguer un peu la situation. Ça, je vous assure. 500 millions de dollars, et je ne sors pas ces chiffres-là par hasard. Parce qu'à court terme, on sera capable de répondre aux besoins humanitaires les plus urgents.
toilettes, eau, etc. À moyen terme, on sera capable effectivement de faire retourner les personnes dans de plus meilleures conditions. Un petit programme que j'appelle Kujitegemea économique, ça va où les gens qui ont perdu l'argent vont avoir la capacité. Cela peut être injecté dans des banques, dans des coopératives.
Vous avez suivi Maroy, monsieur Marion nous a dit que les banques sont fermées. Ouh, il y a des problèmes, les dollars, les gens, les cambistes n'acceptent pas les dollars.
On a juste écrit cacheté, etc. Donc, je vous assure, le gouvernement est là pour protéger. Excellence, monsieur le président et premier ministre, gouverneur, ça va protéger la population. La population ne se sent pas protégée parce qu'elle est, comment est-ce qu'on dit? On est en train de voler la population en se déplaçant. Par exemple, comme je l'ai dit au départ, le pain qui pouvait coûter 1000 francs coûte maintenant 2000 francs. Vous comprenez que là, on vole la population parce que c'est le gouvernement qui, à travers le ministère de l'économie, fixe le prix. Ça va, au moins les tranches des prix. Ça ne veut pas dire qu'en période de catastrophe, les prix doivent se fixer comme on veut. Les taux d'échange ne doivent pas être fixés par hasard. Nous avons le ministère des Finances et surtout la Banque Centrale qui doit continuer à réguler, ça va, et à réglementer les secteurs. Voilà, donc il faudra que chacun puisse continuer à faire son travail et c'est le moment de le prouver, pas seulement de le dire. Donc qui a osé faire monter le prix des bateaux? Dites-moi.
Pour aller vers Bukavu.
Je vous assure.
C'est assez à combien aujourd'hui?
Je vous
aujourd'hui?
Donne un exemple. C'était $25. Je pense que ça s'est stabilisé.
La traversée.
La traversée pour la première classe. Ça va. Et d'un coup, c'est arrivé à $35.
De juste 20, comme ça. De 25 à 35.
De 25 à $35. J'espère que ça commence à se stabiliser.
C'est des spéculations. Les gens spéculent.
Les gens spéculent et les gens payent. Moi, je parle de la réalité. Je ne parle pas de est-ce que je pense. Non. Ça était la réalité. Si vous allez à Sake, vous allez constater qu'une maison qui pouvait coûter avec deux chambres, ça va, $50, coûte maintenant $150. C'est une spéculation, mais qui marche pour ces commerçants-là, au détriment de la population qui est sinistrée, qui doit être assistée. Donc, cette population a besoin d'être protégée par l'État congolais. Et je suis désolé de le dire que la population n'est pas assez protégée. On a même des échos de certains colonels qui, avant de passer, ça va, si vous voulez retourner, vous devez payer $100. Sinon, vous ne retournez pas parce que l'ordre du gouverneur pour retourner n'est pas encore là. Alors, les gens se disent, mais on va rester ici en train de faire quoi?
En train de faire quoi?
On n'est pas protégé, il n'y a pas...
Donc, il y a certains profitent de l'occasion.
Parle de colonels.
Pour se faire de l'argent.
Et je m'excuse, ce sont des cas isolés, bien sûr.
Des cas isolés. Professeur Dadi Salé, pour terminer, qu'est-ce qu'on retient par rapport à cette crise? La crise est là, elle est bien là. Il faut une réponse humanitaire urgente. Par où commencer rapidement
pour le terminer? Gouvernement et OCHA, rapidement, doivent faire leur boulot et doivent communiquer au maximum. Ils doivent coordonner la coordination pour des réponses humanitaires. Aussi simple que ça, s'ils ne le font pas, je comprends que l'ampleur de la solidarité est là, mais ça risque d'être une grande perte. J'encourage la solidarité, mais je demande à ce qu'il y ait une meilleure coordination à court, moyen et long terme.
Et surtout, bien communiquer. Communiquer.
Communiquer toujours. C'est toujours une réponse à beaucoup de problèmes.
Professeur Dadi Salé, expert en développement, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Hip-hop est à l'honneur aujourd'hui. Le rappeur Alech nous vient tout droit de RDC, de Kinshasa, plus précisément. Et dans ses textes, il dénonce les travers de la politique et appelle aussi à l'engagement.
Bon, bande gonana, mi tuna en tuna, nangina tuna, nandenga mabete. Nandenga mabete, faleka bangala loba. Nandenga mabete, boze la kasina loba. Faleka bangala zoba, bopula kingana za zoba. Yangona tike la kibino mwata. Ma kelele
mabete mapinga basala kamusala bien bakula janzela na ba police na butu na nenga mabete bopie bango combien sur 10 bazunzi ya Congo dino pena tuna bino na nenga mabete mbongo ya 100 jours etonga bokanga na bino batu me suite on est en flou na nenga mabete na kuruka na
Mesdames et messieurs, c'est sur cette note musicale que nous mettons un terme à l'émission Capi Service de ces jours, qui a porté sur la crise humanitaire dans la province du Nord Kivu, la crise causée par le volcan, l'éruption du volcan Nyiragongo. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes, en République démocratique du Congo, même en dehors de nos frontières. Marcel Gongo Mombala Keba a assuré la coordination de cette émission, Tati Mapuku à la réalisation. Au micro, Jody Daniel Kachama et Willem Lungamba à la technique. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine. Sur la fréquence de la paix, Radio Okapi.